prendrait bien un dernier vers, la proposition poétique. En effet, les vers, la poésie au fil des semaines sur l'antenne de Radio Royan Vercors avec Gilbert Vincent Cabou. Bonjour Gilbert.
Bonjour Patrice.
Très heureux de vous retrouver pour découvrir eh bien, d'autres poètes qui font leur apparition d'ailleurs dans cette émission, et dont un qui est véritablement incontournable que nous allons aborder aujourd'hui.
Oui, oui, on va lire Blaise Sandra. On va dire quand même quelques mots sur sa vie. Il s'appelait de son vrai nom Frédéric Louis Sauzé, dit Blaise Sandra. Il est suisse et français. Il est né le 1er septembre 1887 à La Chaux-de-Fonds et il est mort le 21 janvier 1961 à Paris. C'était d'abord un aventurier et un bourlingueur avant d'écrire ses premiers poèmes. Son premier recueil, qui a eu du succès tout de suite, s'appelait « Les Pâques à New York ». Bon, il perd un bras en 1915 dans la grande offensive de Champagne et son pseudo, c'est un jeu de mots, avec « braise » et « cendre ». Il écrit sous le signe du voyage et de l'aventure. En fait, on retrouvera sa façon d'écrire et son style, ce sentiment intime d'être partout et à la fois nulle part, d'être toujours en exil, c'est chez d'autres auteurs dont on parlera plus tard. Il a une soif d'errance. Et alors aujourd'hui, on va parler de la prose du Transsibérien. Et pour une fois, on va partir en voyage en Russie, la Russie tsariste. Pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas certain d'y aller un jour avec tout ce qui se passe. Que peut-on dire ? C'est que j'ai choisi ce poème parce que quelque part, dans son style, dans le rythme et tout, on entend véritablement le bruit du train, ses avancées, ses ralentissements et aussi ses arrêts. Et ça, c'est assez extraordinaire. À travers une écriture quand même un peu déchiquetée. Alors on a une écriture déchiquetée, puis si vous écoutez bien dans ce que vous on va lire, d'un seul coup, on se retrouve quelque part avec un poème en rime et en strophe. Voilà. Eh ben, on va commencer directement avec Blaise Sandra. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je me souviens déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez de 7 gares et de 1003 tours. Car mon adolescente était alors si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or milieu des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif et je déchiffrais les caractères cunéiformes, puis tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour du tout dernier voyage et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète. Je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim. Et tous les jours et toutes les fins, dans les cafés et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser. Et toutes les vitrines et toutes les rues et toutes les maisons et toutes les vies et toutes les roues de fiacre qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés, j'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive. Et j'aurais voulu broyer tous les os et arracher toutes les langues et liquéfier tous ces grands corps étrangers nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe. Et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance. J'étais à Moscou, où je voulais me nourrir de flammes. Et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux. En Sibérie, tenait le canon, c'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra. Et les eaux limoneuses de l'amour charriaient des millions de charognes. Dans toutes les gares, je voyais partir tous les derniers trains. Personne ne pouvait plus partir car on ne délivrait plus de billets. Et les soldats qui s'en allaient auraient bien voulu rester. Un vieux moine me chantait la légende de Novgorod. Moi, le mauvais poète qui ne voulait aller nulle part, je pouvais aller partout. Et aussi, les marchands avaient encore assez d'argent pour aller tenter faire fortune. Leur train partait tous les vendredis matin. On disait qu'il y avait beaucoup de morts. L'un emportait 100 caisses de réveil et de coucou de la forêt noire, un autre des boîtes à chapeaux, des cylindres et un assortiment de tire-bouchons de Sheffield, un autre des cercueils de Malmö remplis de boîtes de conserve et de sardines à l'huile. Puis il y avait beaucoup de femmes, des entrejambes allouées qui pouvaient aussi servir, des cercueils. Elles étaient toutes patentées. On disait qu'il y avait beaucoup de morts là-bas. Elle voyageait à prix réduit et avait tout un compte courant à la banque. Or, un vendredi matin, ce fut enfin mon tour. On était en décembre. Et je partis moi aussi pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Carbine. Nous avions 2 coupés dans l'Express et 34 coffres de joaillerie de Pforzheim, de la Kaamelott Amland, made in Germany. Il m'avait habillé de neuf et en montant dans le train, j'avais perdu un bouton. Je m'en souviens. J'y ai souvent pensé depuis. Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le Browning nickelé qu'il m'avait aussi donné. J'étais très heureux, insouciant. Je croyais jouer au brigand. Nous avions volé le trésor de Golconde et nous allons, grâce au Transsibérien, le cacher de l'autre côté du monde. Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saltimbanques de Jules Verne, contre les Kunguz, les boxeurs de la Chine, et les enragés petits mongols du Grand Lama, Ali Baba et les 40 voleurs et les fidèles du terrible vieux de la montagne. Et surtout, contre les plus modernes, les rats d'hôtel et les spécialistes des express internationaux. Et pourtant, j'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train, la moelle chemin de fer des psychiatres américains, le bruit des portes, des voix, des essieux grinçant sur les rails congelés, le ferlin d'or de mon avenir, mon Browning, le piano et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté. L'épatante présence de Jeanne, l'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir et qui me regardait en passant. Froissi de femme. Et le sifflement de la vapeur, et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel. Les vitres sont givrées. Pas de nature. Et derrière les plaines sibériennes, le ciel bas, et les grandes ombres des taciturnes qui montent et qui descendent. Je suis couché dans un plaid, bariolé comme ma vie. Et ma vie ne tient pas plus chaud que ce chalet écossais. Et l'Europe, tout entière, aperçu au coupe-vent d'un express à toute vapeur, n'est pas plus riche que ma vie, ma pauvre vie. Ce châle, effiloché sur des coffres remplis d'or avec lequel je roule, que je rêve, que je fume, et la seule flamme de l'univers est une pauvre pensée. Du fond de mon cœur, des larmes me viennent et je pense amour à ma maîtresse. Elle n'est qu'un enfant que je trouvais ainsi, pâle, immaculé, au fond d'un bordel. Ce n'est qu'une enfant blonde, rieuse et triste. Elle ne sourit pas et ne pleure jamais. Mais au fond de ses yeux, quand elle vous y laisse boire, tremble un doux lys d'argent, la fleur du poète. Elle est douce et muette sans aucun reproche, avec un long tressaillement à votre approche. Mais quand moi je lui viens, de ci, de là, de fait, elle fait un pas, puis ferme les yeux et fait un pas. Car elle est mon amour, les autres femmes n'ont que des robes d'or sur des grands corps de flammes. Ma pauvre amie est si esselée. Elle est toute nue, n'a pas de corps. Elle est trop pauvre. Elle n'est qu'une fleur candide, fluette, la fleur du poète, un pauvre lys d'argent tout froid, tout seul et déjà si fané que les larmes me viennent si je pense à son cœur. Et cette nuit est pareille à 100 000 autres quand un train file dans la nuit, les comètes tombent et que l'homme et la femme, même jeunes, s'amusent à faire l'amour. Le ciel est comme la tente déchirée d'un cirque pauvre dans un petit village de pêcheurs en Flandre. Le soleil est un fumeux quinquet, et tout au haut d'un trapèze, une femme fait la lune. La clarinette, le piston, une flûte aigre et un mauvais tambour, et voici mon berceau. Il était toujours près du piano quand ma mère, comme Madame Bovary, jouait les sonates de Beethoven. J'ai passé mon enfance dans les jardins suspendus de Babylone. Et l'école buissonnière dans les gares devant les trains en partance. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains derrière moi. Bâle, Tombouctou. J'ai aussi joué aux courses à Auteuil et à Longchamp, Paris, New York. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains tout le long de ma vie. Madrid, Stockholm. Et j'ai perdu tous mes paris. Il n'y a plus que la Patagonie qui convienne à mon immense tristesse. La Patagonie est un voyage dans les mers du Sud. Je suis en route, j'ai toujours été en route, je suis en route avec la petite Jeanne de France. Le train fait un saut périlleux et retombe sur ses roues. Le train retombe toujours sur ses roues. Blaise dit, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Nous sommes loin, Jeanne. Tu roules depuis 7 jours. Tu es loin de Montmartre, de la butte qui t'a nourri du Sacré-Cœur contre lequel tu t'es blotti. Paris a disparu et son énorme flambée. Il n'y a plus que les cendres continues. La pluie qui tombe, la tourbe qui se gonfle, la Sibérie qui tourne, les lourdes nappes de neige qui remontent et le gros lot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l'air bleu. Le train palpite au cœur des horizons plombés, et ton chagrin ricane. Dit Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ?
Blaise Sandrard, c'était la proposition du jour. On peut rappeler l'œuvre dont il était question, de ce voyage.
C'est un grand voyage dans la Russie. Cette écriture déchiquetée nous fait ressentir tout le mécanisme, tout le début de toute... comment dire, la société qui arrive, machinerie, puis derrière, au loin peut-être, ces révolutions qui sont cachées derrière quelques nuages. Voilà, j'espère vous avoir fait ressentir ce voyage du mieux possible. J'ai tiré ce texte des poésies complètes de Blaise Sandrard dans la collection Poésie de Gallimard. Et si vous ne le connaissez pas, il y a beaucoup d'autres choses. Je vous convie à aller découvrir Blaise Sandrard.
Un grand auteur. Merci beaucoup Gilbert-Vincent Cabou pour le partage de ces poèmes. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.
Ah non, la semaine prochaine, sans problème.
C'était « Vous prendrez bien un dernier verre » ou « Le bar poétique » de Gilbert-Vincent Cabou.